Nous demandons l'aide du Saint-Esprit pour bien comprendre et mettre en pratique ce qu'il veut nous dire ce matin. Oui, que ferions-nous sans toi, Esprit Saint ? Nous sommes capables de comprendre les mots, les phrases, mais nous serions incapables de les vivre. La parole de Dieu n'est pas faite pour être lue seulement. Elle est faite pour être vécue. Elle est faite pour te rencontrer, toi, Seigneur et Sauveur de nos vies. Toi qui es notre chemin. Toi qui es la vérité. Et toi qui es la vie. Oui, que ferions-nous sans toi? Comme il est écrit, serions comme des brebis qui n'ont plus de berger, des brebis perdues. Mais toi, Seigneur Jésus, tu es l'unique et le bon berger. Et c'est toi que nous voulons suivre. Et nous voulons avoir conscience, Seigneur, de tout l'amour que tu as envers nous. Ça aussi, Seigneur, c'est grâce à ton esprit que nous pouvons le comprendre. Et nous te bénissons. Oui, que ce temps de partage, Seigneur, soit béni. Amen. Amen. Si vous étiez au culte le 1er mai, vous vous souvenez peut-être que j'avais parlé du don du Saint-Esprit à partir d'un texte, à partir d'Actes 2, 32 et 33. Ce passage nous fait clairement comprendre que ce don, le don du Saint-Esprit, n'a aucun rapport avec un quelconque de nos mérites, mais uniquement avec ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Je rappelle ces deux versets du discours de Pierre le jour de Pentecôte à Jérusalem. Voilà ce qu'il dit: ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins, élevé par la droite de Dieu, c'est-à-dire glorifié. Il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Ces versets nous disent clairement que c'est parce que Jésus a été glorifié après sa résurrection que l'Esprit Saint a été répandu sur tous les croyants nés de nouveau, comme le prophète Joël l'avait annoncé. Joël 3, versets 1 à 5. Cela fait un choc lorsqu'on a un jour pensé qu'on reçoit l'Esprit Saint parce qu'on est un bon chrétien, fidèle au culte, priant et lisant la Bible régulièrement, donnant de l'argent, peut-être même la dîme, et qu'on a bien mérité de recevoir ce don. D'ailleurs, lorsqu'on pense cela, on n'est pas du tout certain d'avoir reçu ce don. Lorsqu'on a compris que ce don ne dépend pas de ce que nous faisons ou de ce que nous ne faisons pas, mais de ce que Dieu a fait à travers Christ, alors cela change complètement notre vision de ce qu'est le don de l'Esprit. J'invite tous ceux qui ne sont pas au clair avec ce qui vient d'être dit à écouter le message du 1er mai sur le site de notre Église, où ce sujet est largement développé. Et c'est important de bien comprendre cela. Aujourd'hui encore, je vais parler du don du Saint-Esprit. Pas pour me répéter, mais pour faire un pas de plus dans la compréhension de ce don merveilleux, qu'il ne faut surtout pas considérer comme une option dont on pourrait se passer, vous savez, le GPS sur une voiture ou les sièges en cuir, mais au contraire comme tout à fait indispensable pour la vie spirituelle, pour avancer dans la compréhension. Nous allons lire quelques versets dans l'Épître aux Romains, d'abord au chapitre 5, verset 5, puis au chapitre 8, les versets 9 à 11. D'abord, donc, Romains 5, 5. Qu'est-ce que l'apôtre nous dit ? Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans ce verset, il nous est dit que l'œuvre du Saint-Esprit répandue sur nous nous permet de comprendre l'amour de Dieu pour nous. Il est important d'insister sur ce point. Sans l'Esprit répandu sur nous, nous serions incapables de comprendre que Dieu nous aime. Mais lorsque nous disons que Dieu est un Dieu d'amour, cela englobe une multitude d'autres choses que nous ne pourrions pas comprendre non plus si l'Esprit Saint n'avait pas été répandu sur nous. Nous ne comprendrions pas le sens de la croix. Nous ne comprendrions pas la puissance du sang de Jésus qui couvre nos péchés. Nous ne croirions pas un seul instant à la résurrection des morts. Je ne parle pas des guérisons prétendues miraculeuses. Nous ne croirions même pas que Jésus est le Fils de Dieu. Tout ce que je viens d'énumérer, qui constitue le cœur de la foi chrétienne, frères et sœurs, c'est l'œuvre de l'Esprit en nous. Il n'y a qu'à écouter parler les gens qui n'ont pas la foi pour comprendre que ce qui vient d'être dit est vrai. Car pour eux, au regard de l'actualité et des drames de notre terre, Dieu, s'il existe, est tout sauf un Dieu d'amour. Et les discours des chrétiens sont au mieux naïfs, les pauvres ne sont pas méchants, ou bien au pire, stupides. Mais il nous faut aller plus loin pour comprendre l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ce que Paul nous conduit à faire en Romains 8, 9, 11. Romains 8, 9, 11. Voilà ce que dit Paul. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Dans ce passage, nous voyons bien que l'Esprit a une autre fonction que de nous faire connaître que Dieu nous aime. Ici, il est mis l'accent sur la transformation profonde que l'Esprit opère en nous, c'est-à-dire ne plus être sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, et redonner la vie à nos corps mortels. Je voudrais vous faire remarquer que Paul emploie 4 fois la conjonction « si », qui indique une condition. Et à 3 reprises, cette condition est en lien avec une même expression « si l'Esprit de Dieu habite en vous ». Si vous avez bien suivi la première partie de ce que j'ai dit, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre l'affirmation que tous les croyants nés de nouveau ont reçu l'Esprit Saint parce que c'est la preuve que Jésus a été glorifié par sa résurrection, et la condition que Paul met en avant dans les 3 versets dont nous parlons, si l'Esprit de Dieu habite en vous. Y aurait-il 2 formes d'Esprit Saint, d'Esprit de Dieu ? Oh non, frères et sœurs, bien sûr. C'est bien du seul et même Esprit dont parle Pierre dans le livre des Actes et Paul dans Romains 8. Eh bien, cependant, il y a 2 façons de percevoir et de recevoir ce merveilleux don de Dieu. Et il est primordial de le comprendre si nous voulons grandir dans la foi et devenir des disciples de Jésus remplis du Saint-Esprit et marchant par l'Esprit. Pour le comprendre, il faut s'attarder sur le verbe que Paul emploie dans les 3 mêmes expressions. C'est le verbe « habiter ». Ce verbe « habiter », nous l'avions déjà rencontré dans 1 Corinthiens 3,16 à l'occasion d'un autre message. Je lis 1 Corinthiens 3,16 « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit habite en vous ?» Il y a 2 façons de connaître et de comprendre ce que nous dit l'Écriture. Notre connaissance peut être soit objective, soit subjective. Pour le dire d'une façon peut-être plus compréhensible, on peut connaître l'Écriture de façon intellectuelle, ou bien théorique, ou bien on peut la comprendre de façon existentielle, qui me concerne moi, personnellement. Permettez-moi de donner un exemple personnel pour que nous fassions bien la différence entre une connaissance objective et une connaissance subjective. Et croyez-moi, ce n'est pas pour parler de moi, mais c'est pour vraiment que nous comprenions bien ces choses. Depuis que j'ai été en âge de comprendre le sens des mots et des phrases, ce qui date quand même un petit peu, étant donné mon âge maintenant, je savais objectivement, parce que je l'avais lu de nombreuses fois dans l'Écriture, que Dieu m'avait sauvé par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Éphésiens 2,8. Eh bien, frères et sœurs, malgré cette connaissance sérieuse, j'ai cherché pendant des années à mériter mon salut par des actes, en m'engageant dans plusieurs associations humanitaires, des années d'efforts et de doutes concernant mon salut, en me sentant toujours coupable de ne pas en faire assez. Le jour où j'ai enfin compris, existentiellement cette fois-ci, que mon salut venait de ce que Jésus avait accompli à la croix et non pas de mes œuvres, j'ai tout laissé tomber. La compréhension du salut par grâce était devenue subjective, existentielle. Ce n'était plus une question de connaissance extérieure, c'était devenu une question de vie profonde, de vie intérieure. Eh bien, frères et sœurs, il en est de même pour la question du don du Saint-Esprit. Ce don tellement précieux, au point que Paul ait pu écrire « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas » Romains 8, 9. On peut le voir comme une simple connaissance objective, intellectuelle, extérieure, ce Saint-Esprit. Que se passe-t-il dans ces cas-là? Eh bien, on va prendre cette fois-ci un exemple biblique. Comme tous les croyants, les membres de l'église de Corinthe avaient reçu le don du Saint-Esprit. Sans le mériter. Paul écrit même qu'il ne leur manquait aucun don. Chapitre 1, verset 7. Et pourtant, ils entretenaient des divisions dans l'Église. Ils supportaient un cas d'inconduite hyper grave. Ils dénaturaient le sens du repas du Seigneur. Ce qui se passait dans cette église était si peu conforme à une vie dans l'esprit que Paul leur écrit, je cite, « Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai à vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. » Certains chrétiens de Corinthe avaient bien reçu le don de l'Esprit, mais ils en avaient une connaissance objective, une connaissance intellectuelle. Et c'est bien la raison pour laquelle Paul leur pose cette question, où il semble marquer sa profonde tristesse et peut-être même une forme d'agacement devant leur méconnaissance des choses essentielles de la vie en Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais vous n'avez pas l'air de le savoir, puisque vous faites ceci. Ça, c'est moi qui l'ajoute. S'ils agissaient ainsi, c'est qu'ils n'avaient pas encore reçu la révélation que l'Esprit habitait en eux. C'est-à-dire que Christ vivait en eux, que Dieu vivait en eux. Cette vérité merveilleuse, leur foi ne l'avait pas encore intégrée. Elle était encore extérieure à eux. Et elle faisait partie du domaine de la connaissance et pas encore du domaine de la vie. Watchman Nee a écrit ceci, « Tous les soucis et tourments des enfants de Dieu cesseraient si leurs yeux s'ouvraient et voyaient la grandeur du trésor caché dans leur cœur. » Frères et sœurs, nos yeux se sont-ils ouverts pour voir la grandeur du trésor caché dans notre cœur? Avons-nous pris conscience que Christ vit en nous, que Christ habite en nous? Sans cette prise de conscience, nous continuerons à travailler pour Dieu avec nos propres forces. Et nous constaterons que les efforts que nous faisons porteront peu de fruits et nous finirons par baisser les bras, épuisés ou bien déçus. Nous croyons faire les choses spirituellement lorsque nous demandons à Dieu de nous aider. Lorsque nous entreprenons quelque chose pour lui. En quelque sorte, nous voulons que Dieu entre dans nos plans, parce que cela nous permet de faire ce que nous avons envie de faire, ou ce que nous nous sentons capables de faire. Et on le comprend bien parce que c'est assez confortable. Et cela nous permet d'avoir une bonne opinion de soi. Peut-être même de montrer aux autres que nous sommes un bon chrétien. Frères et sœurs, c'est tout l'inverse que Dieu veut pour nous, mais radicalement l'inverse. Il désire que nous entrions dans ses plans à lui, parce que c'est le seul moyen de ne pas passer à côté de ce qu'il veut. Il veut que nous lui laissions l'initiative pour nous apprendre à compter uniquement sur les forces et les capacités qu'il nous donne, afin que nous soyons délivrés progressivement de l'orgueil spirituel qui nous guette tous, ou de l'activisme spirituel. Et de plus, c'est dans cette démarche de soumission et d'abandon à sa volonté que les fruits pour le royaume seront vraiment abondants. En effet, la prise de conscience que Dieu demeure en nous a comme conséquence que nous savons que nous ne nous appartenons plus et que notre vie est entièrement consacrée à Dieu. Paul écrit aux Corinthiens, en 1 Corinthiens 6, 20, « Vous n'êtes point à vous-même, vous n'êtes point à vous-même car vous avez été rachetés à grand prix. » Alors, nous comprenons beaucoup plus profondément cette parole de Jésus quand il dit « Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. » Et il ajoute, et on le comprend bien, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Comprenez bien, on peut faire plein de choses, mais qui ne porteront pas les fruits que le Seigneur veut que nous portions, si c'est lui qui commande. C'est d'ailleurs exactement l'attitude que Jésus a eue lorsqu'il était homme parmi les hommes. Qu'est-ce qu'il a dit ? Moi, c'est Jésus qui parle, je ne peux rien faire par moi-même. Jésus ! Jésus qui dit cela, moi je ne peux rien faire par moi-même, a-t-il dit à ses disciples pour leur montrer la voie à suivre. Et il ajoute, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire la volonté du Père. La révélation que Dieu habite en nous nous pousse puissamment vers une vie entièrement consacrée au Seigneur, une vie qui cherche tous les jours à faire sa volonté. Et à ce propos, pour terminer, voici ce que Watchman Nee a écrit. Je cite. La différence entre les chrétiens victorieux et ceux qui restent dans la défaite, elle n'est pas due au fait que les uns ont l'esprit et que les autres ne l'ont pas. Elle vient de ce que les uns savent que l'esprit habite en eux et que les autres ne le savent pas. Et par conséquent, les uns reconnaissent à Dieu le droit de propriété sur leur vie. Les uns reconnaissent à Dieu le droit de propriété sur leur vie, tandis que les autres sont encore leur propre maître. Un jour doit arriver dans notre vie, aussi précis que le jour de notre conversion, où nous abandonnons tout droit sur nous-mêmes pour nous soumettre à la souveraineté de Jésus-Christ. Tant que la souveraineté de Jésus-Christ n'est pas établie dans nos cœurs, l'Esprit ne peut pas agir efficacement. Il ne peut pas réellement diriger nos vies tant que nous n'en avons pas remis le contrôle entre ses mains. Si nous ne lui donnons pas l'autorité absolue dans nos vies, il peut y être présent, mais il ne peut pas y être puissant. La puissance de l'Esprit, elle est alors paralysée. Fin de citation. Est-ce qu'on peut demander au Seigneur? Pour avoir une vie conforme à celle qu'il veut nous donner, qu'est-ce qu'on peut demander au Seigneur? On peut lui demander qu'il nous conduise jour après jour dans la volonté de nous abandonner totalement à Dieu, afin que se manifeste dans nos vies et puis dans l'Église ce qui est le plus cher désir de Dieu, c'est-à-dire un réveil. Un réveil avec un R majuscule. C'est ça, Seigneur, que nous voulons te demander. Seigneur, si jusqu'à présent on a voulu conduire notre vie comme on conduit une voiture, alors en tant que chrétien, on te dit, « Oh Seigneur, sois mon passager. » Et c'est moi qui conduis. Et tu nous fais comprendre que ce n'est pas comme ça que tu veux les choses, Seigneur. Que tu veux être au volant, avec nous comme passagers. Parce que c'est toi qui sais où tu veux nous emmener. Et tu seras toujours là. Mais c'est enfin ta volonté que nous ferons, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous conduiras. Prends-nous à ce qui n'abdique pas en nous, Seigneur, ce qui refuse de faire ta volonté comme tu le voudrais. Apprends-nous à céder et à comprendre, Seigneur, que tu veux le meilleur pour chacun. Et pour ta gloire, pour que ce monde, Seigneur, qui ne croit plus en rien, puisse parvenir à la lumière que toi, Seigneur Jésus, tu es. Amen.